Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et donc, on est déjà de retour en ondes. Et ouais, on a pas eu le temps de vous manquer. Donc, c'est toi, Marc-Antoine. Je vais te laisser la parole pour nous parler du Super Mardi et des élections américaines et de l'État de l'Union.
Oui, c'est ça. Donc, c'est une super chronique. Je vais essayer de condenser ça le plus possible parce qu'on est limité dans le temps. Dans le fond, le Super Mardi qui avait lieu le 5 mars... c'est souvent où le cœur de la campagne présidentielle se joue dans les deux partis, qu'ils soient démocrates ou républicains. Par contre, il y avait moins de suspense que d'habitude lors de celui-ci parce qu'il y a peu d'opposition du côté démocrate, ce qui est toujours le cas quand le président provient du parti. Et du côté des républicains, ben Trump allait ressortir comme l'éventuel vainqueur avant le Super Mardi. Il y avait 273 délégués contre seulement 43 pour Mme Haley. Du côté des républicains, ce qui est intéressant à mentionner, c'est qu'aucun candidat républicain depuis Bush père en 1988 a été nommé candidat du parti à la présidentielle sans avoir remporté la majorité des États qui étaient en jeu dans le Super Mardi. Ça a une certaine importance, le Super Mardi, parce que ça donne du momentum aux candidats qui veulent se présenter à la présidence. Par exemple, en 2020, Joe Biden avait connu un début assez hasardeux parce qu'il y avait eu certaines défaites assez importantes dans des États qui sont souvent des indicateurs pour devenir candidat présidentiel. Il avait fini quatrième en Iowa en 2020 et sixième au New Hampshire. Il y avait eu par la suite une victoire déterminante juste avant le Super Mardi qui avait sauvé sa campagne. Pour ce qui est du Super Mardi, excusez-moi, j'ai accroché un
bouton. Il n'y a pas de problème. J'ai eu aussi, j'ai accroché un bouton tout à l'heure avec mon orchestre de...
c'est ça, donc le Super Mardi, il y avait 865 délégués en jeu chez les Républicains. 15 États ou plusieurs milliers d'électeurs étaient invités à voter pour le candidat de leur choix en vue de la présidentielle de novembre. C'était l'Alabama, l'Alaska, l'Arkansas, la Caroline du Nord, le Colorado, la Californie, le Maine, le Massachusetts, le Minnesota, l'Oklahoma, l'Utah, le Texas, le Tennessee, le Vermont et la Virginie. Je vais revenir brièvement sur le Minnesota parce que dans cette dernière élection, lors de la primaire démocrate, particulièrement, on a constaté une tendance similaire à celle du Michigan qui avait lieu quelques jours avant le Super Mardi. Au Michigan, il y avait eu un peu plus de 50 000 électeurs qui n'avaient pas voté sur leur bulletin. Dans le fond, ils ont laissé les cases vides sur leur bulletin de vote en protestation au rôle des États-Unis dans le conflit à Gaza. Au Minnesota, ils étaient 45 914 électeurs qui ont fait la même chose, ce qui représente à peu près 20 % de l'électorat. Cette situation pourrait désavantager Biden lors des élections de novembre, surtout au Michigan, parce que le Michigan est considéré comme un État pivot et regroupe une importante communauté arabo-américaine qui vote traditionnellement démocrate. Dans cet État, il y a aussi l'enjeu du secteur de l'automobile, celui qui se rapprochera le plus des intérêts des travailleurs de ce secteur va avoir des bonnes chances de remporter les élections. Pour ce qui est des résultats du Super Mardi, du côté des Républicains, Donald Trump a eu une soirée presque parfaite, puisqu'il a remporté 14 des 15 États qui étaient en jeu lors du Super Mardi. D'après vous, quel est le seul État dans la liste que j'ai mentionné au début que Trump a perdu?
Le quiz. Ah, tu me renvoies le...
Ben, je sais pas, t'avais commencé.
Je m'y connais pas. Attends, est-ce que je peux me permettre de te redemander les...
Oui, oui,
je m'y connais pas assez en...
Il y a pas de problème, Enzo. Donc, il y avait l'Alabama, l'Alaska, l'Arkansas, la Caroline du Nord, le Colorado, la Californie, le Maine, le Massachusetts, le Minnesota, l'Oklahoma, l'Utah, le Texas...
Est-ce que c'est la Californie?
Non.
Pas du tout? Non, je t'avoue, j'en sais rien du tout. Est-ce que Noémie, tu...
L'Alaska?
Non, c'était le Vermont.
Pas. Ah, ben là.
Excusez,
j'écoutais pas, je faisais vraiment autre chose. Wow. Je suis désolée.
Wow. Donc, bravo le Vermont.
Ouais. Ouais. Qui avait voté pour Madame Haley, puis c'est un État aussi qui est traditionnellement démocrate. Comme la Californie, d'ailleurs. Donc
c'est pour ça que j'ai dit ça, ouais.
Ton premier guess était quand même pas peur. Suite au Super Mardi, Nikki Haley, qui était encore la seule candidate en lice du côté des Républicains pour faire opposition à Trump, s'est retirée de la course. Et contrairement aux autres candidats, comme le gouverneur M. DeSantis de la Floride, qui s'était retiré avant elle, cette dernière a choisi de ne pas soutenir Trump. Trump étant 1060 délégués, il lui en faut 145 autres pour être reconnu comme candidat du parti. Hier, M. Trump a gagné la Géorgie, le Mississippi et l'État de Washington. Biden, lui, avait 1819 délégués. Il lui en fallait 149 autres pour être reconnu candidat du Parti démocrate. Hier, ce dernier a gagné la Géorgie, ce qui lui assure d'être le candidat pour le Parti démocrate. Et on arrive à une reprise de 2020. Donc, la revanche est officielle. Ça va être Trump contre Biden pour une deuxième fois en 2024, au mois de novembre. Pour ce qui est de l'État de l'Union, c'est un discours qui est toujours annuel, une fois par an. Habituellement, il est en janvier. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait en mars, mais généralement, il est en janvier. Au cours du discours, Biden s'est défini comme la voix de la raison devant la voix de la division représentée par Trump. Il l'a mentionné à 13 reprises dans le discours d'un peu plus d'une heure. Il a d'ailleurs reproché l'amitié de Trump avec Poutine. Oui.
Sans vouloir te couper, si je peux me permettre, c'est ça qui me fait toujours rire, moi, avec le jeu des élections américaines, c'est qu'on est plus dans l'opposition que dans la proposition. Hein. On est plus dans la critique et dans l'invective envers l'opposant que dans la réelle proposition d'alternative ou d'idée. D'ailleurs, on voit leur débat, c'est pas...
Mais là, surtout avec Trump, tu t'attends à quoi?
Être contre, c'est intéressant, mais il faut être pour quelque chose aussi, pour une alternative.
Sais,
moi, surtout quand on voit leur débat, on dirait un clash de... Je sais pas, moi, je trouve que ça...
La politique, c'est une garderie, là, ben, pour être honnête. Là.
Ouais, moi, je trouve que ça manque de crédibilité.
Et
que,
ouais.
La jeunesse, surtout la jeunesse qui se détache de Biden, qui l'appelle Joe le génocidaire, je vais dire en français, c'est plus simple pour moi, par rapport à la complaisance qu'il a avec le massacre qu'il y a lieu à Gaza. Je pense pas que ça l'aide forcément. Il faudrait qu'il propose des alternatives. Ça paraît assez faible, moi, je trouve, toujours d'être dans l'invective. Effectivement, il peut être dans l'invective avec Trump. Il y en a un milliard, je pense.
Mais
des
ça va avec la
de
polarisation
des
États-Unis.
Des États-Unis, effectivement, c'est
exactement,
ça.
Exactement, c'est de justement.
Mais ça intéresse pas les gens, forcément, ça.
Ben non.
Les gens, ils veulent des alternatives, non, mais des propositions sociales.
Ils veulent plus. Ben non. Le monde, ils veulent plus détester l'autre parti versus. Tu sais, c'est beaucoup ça, là, honnêtement.
Je pense que les travailleurs, ils veulent aussi des alternatives
oui,
sociales.
Oui, ils veulent des alternatives, mais en fait, ça fait toute partie du processus de politisation des États-Unis. C'est vraiment comme la haine envers l'autre parti. C'est sûr que si tu nourris cette haine-là, il y a de fortes chances que tu votes vraiment plus pour l'autre, tu sais.
Donc, c'est la conséquence. Enfin, oui, non, mais parce effectivement, c'est en ça que je le critique. C'est la conséquence même de cette polarisation et de cette politique qui tend vers quelque chose d'illibéral de plus en plus aux États-Unis.
Ben exactement, parce que c'est, dans le fond, leur vote n'est pas fondé sur quelque chose de tangible, comme des propositions, mais plutôt sur la haine envers l'autre parti.
On n'est plus du tout dans un rapport matériel, mais exactement. Dans un rapport juste de haine, ouais, effectivement.
Oui, puis surtout que... non, mais c'est bien, c'est intéressant que vous interveniez. Et surtout, comme disait Enzo, à propos de Gaza, là, on voit qu'il y a un changement de position aussi dans l'État de l'Union.
Complètement. On voit que les élections arrivent et qu'il y a un petit retournement de veste. Oui. C'est intéressant. Si ça peut apporter quelque chose... Enfin, si c'est appliqué, pourquoi pas. J'ai peur que ça soit juste de la com', mais bon.
Mais c'est ça.
Mais il y a des gens. Il y a de la com', mais il y a des gens. Il y a des vraies vies humaines aussi, au-delà de la com'. C'est ça qui est un peu triste parfois.
Mais c'est ça. Pour revenir sur Israël, il a annoncé la construction d'un port temporaire à Gaza, construit par l'armée américaine pour l'aide humanitaire. Pas de soldats vont être mobilisés dans le port. Le port est vu comme un moyen d'accroître l'aide humanitaire. Quant à l'avenir de la fin du conflit éventuellement, pour les Américains, ils ont une position qui rejoint beaucoup plus le Canada parce que la seule véritable solution à la situation, selon le Parti démocrate est une solution à deux États. Puis aussi, il a, dans son discours, il a appelé à soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, car ils peuvent vaincre la Russie si les armes sont fournies. Il a également réclamé les aux républicains de mettre fin à leur aide, à leur refus d'aider l'Ukraine. Pour ce faire, il a rappelé à ces derniers le rôle du président Reagan dans ses relations avec l'URSS, parce que Reagan, pour la petite histoire, avait fait pression sur M. Gorbatchev pour que le mur de Berlin chute. Mais ça a été également perçu aussi comme un appel aux électeurs qui votent pour Mme Meili, qui sont des républicains modérés qui vivent dans les banlieues majoritairement et ceux qui se considèrent comme indépendants à rejoindre le camp de M. Biden. Il y a eu plusieurs points aussi sur l'OTAN que le fait que l'Alliance est rendue plus forte grâce à l'adhésion de la Finlande et de la Suède, comme on a mentionné. C'est ce qui met fin à ma chronique.
Eh bien, merci, Marc-Antoine. Maintenant, on va savoir que c'est le Vermont que M. Trump a pas gagné. Excusez, hein, on s'est tellement fait prendre au dépourvu. Je m'attendais pas à ce qu'on me lance un pop quiz demain.
Non, puis ça change tellement. Hein. Il y a des,
mais c'est vraiment logique, en fait. Ouais. Mais honnêtement, en toute franchise, j'ai pas suivi ça. Comme je vous ai dit, je me suis vraiment ressourcée pendant la relâche. Là, fait
bah,
que,
t'as bien fait. Ouais. T'as bien fait. Mais en même temps, on peut être surpris aussi. Il y a des États qui nous surprennent dans ce point.
Mais Vermont, habituellement, sont assez...
Mais il y a des États démocrates qui sont un petit peu retournés aussi, dernièrement.
Oui, oui.
Comme la Californie, si je ne me trompe pas.
La Californie est traditionnellement démocrate. Là,
c'est ça.
Mais tantôt, je parlais de la Géorgie. La Géorgie va être un État pivot parce qu'en... En 2016, ils ont voté pour Trump. En 2020, ils ont voté pour Biden.
Ça, on a pu être surpris.
Je pense qu'il y en a plus des États pivots. Il y en a-tu plus? Je ne sais plus.
Il y en a quand même plusieurs. Là. Il y a la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie.
Non, mais à savoir si justement la tendance, est-ce que est plus... est-ce que la tendance se maintient au niveau du nombre d'États pivots ou est-ce que c'est justement en raison de la polarisation peut-être, là, justement,
ben,
que c'est plus
toujours franchi. Entre 10 à 15 normalement, ouais. Par élection. Là.
Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour ce petit topo.
Eh oui, merci beaucoup. Ouais.
Merci.
On vous l'avait dit, on vous tiendrait au courant au fur et à mesure de ces élections américaines qui sont en tension puis qui sont un vrai enjeu d'actualité internationale. C'est nos voisins.
Ouais, on va aller en pause puis
on va aller en pause. Et on vous revient dans quelques minutes pour une entrevue sur la question de la santé mentale. On vous revient dans une minute.